Fadeaway est directeur artistique du Ullen Center for Contemporary Art, qui a ouvert en novembre dernier au 798 à Pékin, et dont le bâtiment, un immense entrepôt de 8000 m², a été réhabilité par Jean-Michel Villemotte. Je l'ai rencontré en décembre dernier à Pékin et je lui ai posé quelques questions à propos du centre et de l'histoire de l'art contemporain chinois, ainsi que de l'exposition que l'on peut voir jusqu'au 17 février à Pékin, 85 New Wave, à propos de la naissance de l'art contemporain chinois. On écoute Fadeaway, à qui j'ai demandé si le Ullen Center était le seul musée d'art contemporain en Chine.
C'est difficile à répondre. Je pense que c'est le seul musée, c'est le premier musée avec le fonds étranger privé s'installer en Chine, qui est spécialement fait pour l'art contemporain international.
Quel est votre rôle dans ce musée?
Je suis le directeur de Fondation Ullen, donc à partir de 2002-2003. C'est à partir de 2005, j'ai réfléchi avec monsieur et madame Ullen de lancer un projet en Chine. On savait pas précisément qu'est-ce qu'on va faire. Et petit à petit, on a, à partir de chercher le lieu, de chercher de voir la possibilité. Au tout début, on était visé sur le Shanghai, pensé de faire quelque chose à Shanghai. Donc après, on a trouvé le lieu de créer une compte, une unité pour lancer le projet à Pékin. On a réussi à louer l'espace, établir le projet, et donc je suis le directeur artistique de centre. Voilà.
Pourquoi vous avez choisi Pékin plus que Shanghai?
Parce que faire quelque chose à Pékin, c'est peut-être plus difficile, mais c'est plus intéressant. Shanghai, c'est beaucoup plus... Peut-être c'est techniquement c'est plus facile parce que les Shanghaïens sont beaucoup plus entre guillemets professionnels, sérieux. Ils font très très bien les choses et dans le montage, dans tout ce qui est la fabrication est beaucoup plus présentable. Mais à Pékin c'est beaucoup plus brut. Il y a le moment qu'on choisit presque jusqu'à maintenant c'est comme ça. Le moment qu'on a choisi faire quelque chose à Pékin. Pékin, c'est une ville. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de galeries, mais il n'y a pas une institution non-profit. Il n'y a pas une institution qui est plus ou moins plus professionnelle. Donc c'est beaucoup de galeries, très commerciales. Shanghai, c'est au contraire. Bon, Shanghai, c'est que les galeries, il y a aussi beaucoup de galeries, un peu moins, mais Shanghai, c'est les galeries qui veulent faire d'une façon presque non-profit. C'est tellement professionnel, tellement intellectuel, tellement bien fait. Et donc, il y a aussi même des centres d'art qui font des projets vraiment au niveau assez bien. Je pense que il y a deux éléments qui sont très importants pour moi à réfléchir. C'est que Shanghai, il y a beaucoup moins des artistes. Les artistes shanghaïens sont des artistes shanghaïens. Il y a très peu des artistes ailleurs qui s'installe à Shanghai, mais Pékin, les artistes, la quantité des artistes sont minimum 50 fois plus que Shanghai, et ils sont venus de partout, de Chine. Donc il y a aussi même des artistes étrangers qui s'installent à Pékin. Donc ça, c'est au niveau de quantité, c'est incomparable. Il y a aussi l'influence au niveau de presse que si on fait quelque chose, autant de l'énergie, l'argent, de temps de investir dans un projet très grand. Donc la presse de Shanghai, c'est presse locale. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose à compter, à ne pas oublier.
Voilà. Oui, la presse nationale, elle est à Pékin. Alors, comment est né l'art contemporain chinois?
L'art contemporain chinois, il est né à travers d'une très longue chemin, parce que depuis que l'art occidental est entré en Chine au début du XXe siècle, donc il est entré principalement, c'était une influence de l'académisme français au début. Donc le réalisme est toujours occupé une place majeure, c'est le plus important. Et il est à travers des périodes de guerre, des périodes communistes, donc donc l'art est toujours utilisé pour comme un outil de propagande. Le réalisme est beaucoup plus facile à communiquer avec une grande masse, etc. Donc il y a une petite minorité des artistes qui sont très marginales, qui voulaient essayer de faire quelque chose de plus contemporain, plus expérimental dans les années 20, 30, et leur influence est très limitée parce que quand même c'était la période toujours, il y a beaucoup de guerres. Et donc après une longue période de fermeture de les années 50, 60, 70, donc à partir de l'ouverture réforme initiée par Deng Xiaoping, donc il y avait une période de printemps de Pékin, c'était fin 70. Donc à ce moment-là, il y a le petit groupe initié par les artistes qui s'appelle Xing Xing et les autres, les stars. Hein, ce sont des groupes indépendants. Ils prennent leur propre initiative, spontanément organiser des expositions, même souvent fermées par les polices. Mais ça a été une période de l'ouverture que l'art essaie de détacher cet modèle unique de faire seulement l'art pour propagande, seulement l'art à travers le réalisme. Donc l'art doit trouver une place autonome, donc il doit être libre, il doit être exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer. Donc il doit jouer aussi un rôle social. Donc c'est à partir de là, je pense que l'art contemporain chinois a commencé à débuter. Mais donc c'était très vite après, cette petite ouverture était arrêtée. Au début des années 80, il y avait une campagne de nettoyage de pollution spirituelle, et donc ça a été une période aussi très dure que les groupes des étoiles Xing Xing, etc., ils sont tous partis de Chine, hein, donc c'est en plus. Mais il y a une autre génération des artistes qui sont en train de sortir, sont en train de se former, c'est des artistes très différent que Groupe des Étoiles, parce que les Groupes des Étoiles sont des artistes qui sont plutôt autodidactes, n'ont jamais formé par l'école. Mais l'autre génération des artistes qui sont formés par les écoles des Beaux-Arts, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations dans leur bibliothèque, ils ont vu tout, hein, toutes les revues d'art étrangères. Donc il y avait déjà beaucoup de traductions de philosophie contemporaine est sortie. Donc c'était une fièvre de lecture de la philosophie contemporaine, la culture, tout ce qui est la culture, philosophie, etc. Donc les étudiants sont très 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 influencés par cette vogue-là. Donc quand il y a une autre deuxième l'ouverture à partir de fin 84. Donc ça a provoqué la deuxième vague, c'est vraiment une très grande échelle au niveau national, c'est le New Wave 85. Donc il y avait partout dans chaque ville, ce n'est plus comme Groupe des Étoiles seulement à Pékin, petit groupe, mais partout en Chine, dans chaque ville, il y a plein d'expositions spontanées. Donc ça a aussi provoqué une grande curiosité de la part du public. Donc à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de colloques, conférences, symposiums, des activités aussi. Il y a beaucoup de revues sont créées. spécialement pour le New Wave 85. Donc c'est vraiment été une mouvement national. Donc je pense que c'est presque, on peut dire officiellement, l'art contemporain chinois était vraiment, à partir de 85, est devenu une tendance irréversible. Donc c'est une situation de plurialisme. Ce n'est plus que le réalisme socialiste n'est plus un seul chemin qui monopolise la création artistique. Donc l'art est devenu beaucoup plus varié, divers. Voilà. Donc ça, c'est très, très important.
Quels sont les artistes phares de ce mouvement?
Les plus importants. Le plus important dans ce mouvement, il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, au début 85, il y a l'artiste Gu Wenda. Gu Wenda, il est de Hangzhou, donc il a été un artiste très énergique, très provocatif. Mais très vite, il est parti en États-Unis en 87. Oui, il est parti en États-Unis. Il y avait aussi comme Wang Yongping. Il était dans une ville, très petite ville, dans le sud de la Chine, en face de Taïwan, s'appelle Xiamen. Donc il a organisé Xiamen Dada. C'était un groupe très radical. Donc il a fait aussi des choses, des actes très, très importants dans l'époque. Il y a aussi le groupe du Nord. Il y a Wang Guangyi, Su Qun. Ce sont des artistes qui ont fondé un autre style dans le nord de la Chine. Donc c'est aussi ça fait une tendance très, on l'appelait peinture rationnelle. Donc c'était un des groupes importants. Donc il y a aussi Zhang Peili, Geng Jianyi, Wu Shanzuan sont des artistes de Zhejiang, de Hangzhou. Donc la plupart des artistes sont formés de l'école des beaux-arts de Hangzhou. Parce qu'il y avait une tradition des années 30, de l'avant-garde, sont plus ou moins formés dans cette école des beaux-arts. Mais Pékin, c'était une ville de comment dire, bureau de commandement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critiques d'art, organisateurs qui organisent les choses.
Alors, à part de l'argent et de grands ateliers, les artistes chinois ont tout ce qu'il leur faut, a dit un artiste chinois en 89. Alors, les choses ont sacrément changé depuis.
Oui, j'ai choisi cette phrase pour montrer que la nécessité de faire cette exposition, c'est un peu le but de notre exposition, de voir quel contraste de 20 ans après, de voir la situation qui est tournée jusqu'à une autre côté, de complètement à l'envers. Et que ce qui est intéressant de voir aussi dans cette salle de l'exposition de documentation, il y a une affiche de l'exposition de 89 de China Avant-Garde. C'est interdit de retourner en arrière. Voilà, donc ironiquement, c'est à partir des années 90, je pense que la tendance artistique, même à l'intérieur de l'art contemporain chinois, il est vraiment retourné à l'arrière. Dans un autre sens, au contraire, qu'on voulait chercher au départ. Donc maintenant, c'est 20 ans après, je pense que c'est le bon moment de réfléchir. Qu'est-ce qu'on voulait chercher? Qu'est-ce qu'on a perdu? Voilà, qu'est-ce qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on a besoin dans l'art? Donc je pense que c'est un peu le but de cette exposition.
Vous pensez qu'on a perdu quelque chose?
On a perdu beaucoup de choses, je pense. Oui, c'est que quand on a une conviction, quand on a quelque chose de nécessité de faire l'art, c'est un enthousiasme de faire l'art. Donc à ce moment-là, c'est différent qu'on peut comment dire, si maintenant on a de voitures, on change de voiture, on change de chauffeur, on change les ateliers, les ateliers sont, les studios sont de plus en plus grandes. Je pense que c'est le prix sont de plus en plus chers, c'est la folie. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir les deux en même temps. On ne peut pas avoir l'enthousiasme de l'art. Et je pense qu'il faut, il faut choisir. Il faut choisir. C'est, il faut réfléchir à ça.
Je ne suis pas sûre que le choix existe vraiment.
Je pense que ça dépend des artistes. Je pense qu'il y a des artistes qui peuvent faire le choix. Hein, c'est que ce n'est pas. Parce que maintenant, si on parle de l'art chinois, c'est on pense tout de suite immédiatement c'est l'argent. Mais je pense que ce n'est pas tous les artistes chinois sont comme ça. Il y a des artistes qui sont plus visibles, hein, des phénomènes plus visibles. Il y a des phénomènes moins visibles. Il y a des artistes qui sont de très bonne qualité, ils ne se montrent pas. Hein, donc on ne parle pas de lui. Et voilà, donc il ne faut pas croire le phénomène sur la scène. Donc voilà, je crois ça, je crois ça, que je sais qu'il y a des artistes qui sont même les artistes, il ne faut pas croire que les artistes sont très. Les artistes soi-disant réussissent. Enrichi, très riche, beaucoup d'argent, grand studio, qu'il ne faut pas croire qu'ils sont dans un état excité non plus. Donc je pense qu'ils sont, maintenant, ils ont bien compris que c'est vraiment quelque chose de. Ça leur porte une certaine de malheur presque. Hein, c'est que ils ne sont pas du tout heureux. Ils ne sont pas du tout heureux. Au début, peut-être, ils sont un peu. Il y a 2 ans, quand le prix commence à monter, ils commencent à exciter, mais maintenant, non, pas du tout. Maintenant, c'est très dur pour eux.
Maintenant, il y a une réflexion. Alors, ce sont les magiciens de la Terre en 89 qui ont fait connaître les artistes chinois hors de Chine. Alors, pourquoi ça s'est passé à Beaubourg et en France?
Mais je pense que c'est parce que Jean Hubert était un Français.
Mais pourquoi Jean Hubert Martin?
Je pense que l'exposition, il était né dans un contexte que. Dans un contexte d'abord. Il y a 2 contextes. Il y a depuis 20 ans, 30 ans, qu'il y a cette sorte de guerre froide culturelle entre les Européens et les Américains. Que c'est. Donc, je pense que c'est très bien de dire qu'il faut sortir de cet cercle vicieux, de cette fermeture d'Européens-Américains, de voir le monde. Donc ça, c'était une proposition vraiment surmontée, dépasse cette contradiction très fermée. Et aussi, je pense que les années 80, et déjà, l'art contemporain était très institutionnalisé en Occident. Et comment on peut trouver une autre ouverture dans l'art contemporain, donc c'est aussi ces 2 contextes-là qui a poussé une réflexion comme le genre de magicien de la Terre qui a vraiment permettre l'art contemporain, a trouvé le milieu de l'art, a trouvé une ouverture qui est plus. Qui peut être plus large et beaucoup plus ouverte. Donc ça a changé la vision complètement de l'art. Et je pense que la France, bien sûr, il y a une tradition de l'ouverture, de tradition de. Mais en même temps, la France est aussi, comme beaucoup des autres pays, c'est un pays paradoxal parce que je pense que du côté aussi il y a du côté très très conservateur, donc l'exposition de Magicien de la Terre était tellement critiquée, tellement rapprochée par les collègues français dans le milieu de l'art artistique, c'était vraiment très surprenant parce que quand je suis arrivé en France en 89 pour parler au Magicien de la Terre pour le colloque international, que j'ai vu des réactions, les gens sont très violents de dire que ce n'est pas de l'art contemporain, c'est nul, c'est décoratif, c'est exotisme, c'est post-colonialisme, etc. Donc c'est, voilà, c'est que, parce que l'art contemporain, c'est nous, c'est occidental, c'est conceptuel, c'est l'installation, c'est des modèles qui correspond au système de musée occidental. Que tout le reste, c'est des copies. Vraiment, c'est parce que c'est les Occidentaux qui ont créé des stylos. Et donc, ils ont créé aussi l'écriture. Après, les autres peuvent utiliser le stylo, écrire quelque chose de leur histoire. Mais de toute façon, le stylo est créé par les Occidentaux. Donc, c'est rien à dire. C'est vraiment... À l'époque, c'était... Maintenant, on voit que cette exposition est tellement importante, mais à l'époque, presque, on a l'impression que personne ne le comprend.
C'est toujours comme ça, il faut passer un peu de temps. Alors, comment vous voyez l'avenir de la création chinoise ?
Je pense qu'il faut être très patient. L'avenir de la Chine, c'est que je pense que maintenant que c'est la vogue, c'est l'enthousiasme de l'argent, de prix, de ventes enchères, etc. Donc la Chine, d'abord, cette vogue, cette fièvre de l'argent, il est provoqué par la fièvre de marché international. Donc ce n'est pas un phénomène chinois. Les œuvres chinoises et le prix des œuvres chinoises est monté le plus fort. C'est un phénomène. Mais il est provoqué par le marché de l'art international. Donc quand le marché international sont plus calmés, je pense que cette folie de monter le prix des artistes, des œuvres chinoises va aussi baisser. Donc ça c'est sûr. Je pense que la Chine a aussi passé des périodes. Il faut comprendre que la Chine a passé des périodes de folie qu'on a assez habitué de mon âge. On est assez habitué de voir ce type de folie comme les années 60, la révolution culturelle. Donc c'est passé. Même on croyait profondément que c'était une vraie révolution et ça a été passé. Et donc même avant les années 50, c'était aussi une folie de penser grand bond en avance, de dépasser les Américains très vite. Voilà, donc on a besoin des illusions, on a besoin de mais chaque période, c'est une fermeture. Hein. C'est chaque période qui empêche de l'imagination, qu'on pense que c'est, on peut plus s'en sortir là. On a une seule logique de pensée, mais c'est pas vrai. Qu'on a toujours une période va toujours passer, et je suis sûr cette période de maintenant, on ne parle que l'argent va passer. Voilà. Donc après, il y a autre chose, peut-être pire, peut-être mieux, mais je pense que c'est ça. S'il n'y a pas quelque chose de très grave, je pense que ça, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux.
Nous étions en compagnie de Fei Dawei, que j'ai rencontré donc à Pékin et qui est directeur du Yulen Center et qui nous parlait un petit peu de la situation de l'art contemporain en Chine aujourd'hui et hier.